نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دونك حياكم الله. Nous sommes mercredi 9 Jumada al-Oula 1437 de l'Hégire, soit le 17 février 2016. Nous sommes toujours avec le mal et le remède de Ibn Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala, cours numéro 50. Donc, on s'était arrêté là où Ibn Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala avait montré tous les méfaits de l'amour fou et avait donné tous les dalils et même les vers de poésie. Ensuite, certains ont dit pourquoi tu n'as pas cité, yani, quels sont les bienfaits de l'amour fou. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a cité, yani, quels sont les bienfaits d'après eux. Eux, ils ont dit, pourquoi vous n'avez pas cité tel et tel et tel et tel bienfait de l'amour fou. Alors, après avoir écouté les bienfaits de l'amour fou, et nous on en a sauté quelques-uns qui n'avaient ni queue ni tête, non. Alors maintenant, le cours d'aujourd'hui, Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala va répondre au soi-disant yani, argument cité par les amoureux fous, comme quoi l'amour fou contient des bienfaits, comme quoi il contient des bienfaits. Donc il va répondre. Avant cela, juste une petite parenthèse pour les admins, inshallah ta'ala. Je l'ai déjà dit une fois, mais ça fait longtemps. Pour ce que vous affichez quand j'écris, quand je lis, il faut juste se suffire au titre, inshallah ta'ala, au titre et au verset, au hadith et au athar, au vers de poésie. Et s'il y a des règles, par exemple, si je dis l'amour fou se divise en trois parties, vous écrivez premier groupe, la première sorte, deuxième sorte, trois sortes, et les titres comme ça. Il ne faut pas tout écrire ce que dit Ibn al-Qayyim, sinon qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir un décalage entre vous et moi. Moi, quand je termine la lecture, vous allez afficher, ensuite moi je passe quelque chose de nouveau, et eux, les auditeurs, et ceux qui sont dans le salon, vont le lire. Ils vont lire ce que j'ai déjà dit et je suis déjà autre chose. Je suis déjà en train d'expliquer autre chose. Barakallahu fikoum. Donc il va répondre, il a dit. À ce sujet, il est nécessaire de distinguer l'illicite du permis et l'utile du nuisible et de ne pas juger la chose blâmable et réprouvable ou louable et acceptable de manière globale. Mais il faut exposer sa disposition légale et dévoiler ce qu'il en est en mentionnant ses implications. Sinon, l'amour fou n'est en soi ni louable ni blâmable. Et nous mentionnerons l'amour bénéfique et nuisible, permis et illicite. Sache, dit Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, que le plus bénéfique, obligatoire, élevé et grandiose des amours est celui pour l'amour duquel les cœurs ont été créés. Et dont la nature des créatures consiste à le déifier. Faire de lui un dieu. C'est sur lui qu'ont été établis les cieux et la terre et créés les êtres. Il est l'essence de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah Azza wa Jal. Et la divinité est celle que les cœurs déifient par l'amour, la vénération, la glorification, la soumission, la sujétion et la servitude. L'adoration ne convient qu'à lui seul. Et l'adoration consiste en la perfection de l'amour associé à la perfection de la soumission et de l'humiliation. Écoutez bien ce qu'il a dit, l'adoration. Pour ceux qui cherchent, qui se disent c'est quoi l'adoration exactement, comment la définir? L'adoration, il dit,
consiste en la perfection de l'amour, l'amour parfait envers ce qu'on adore, associé à quoi ? À la perfection de la soumission et de l'humiliation. Pour qu'il y ait adoration, il faut deux choses. Pour qu'il y ait amour, hein, je ne peux pas adorer quelqu'un que je déteste. Donc, il faut qu'il y ait amour, ajouté à quoi ? À la soumission et l'humiliation. Si je dis j'adore Allah Ta'ala, il n'y a pas de soumission, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas la vraie, je suis un menteur. Non, la vraie adoration, adoration, amour. J'aime Allah Ta'ala et je me soumets à sa législation. L'association en cette servitude compte parmi les pires injustices. L'association en cette servitude dont on est en train de parler compte parmi les pires injustices. Qu'Allah ne pardonne pas. Allah est aimé pour lui-même de tous les points de vue. Et tout ce qui est autre que lui n'est aimé qu'en conséquence de son amour. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est une autre règle. Allah Azza wa Jal est aimé pour lui-même de tous les points de vue. Et tout ce qui est autre qu'Allah, tout ce qui est autre qu'Allah, autre que lui, n'est aimé qu'en conséquence de son amour. Qu'en conséquence de son amour. Non. Tout ce qui est en dehors de lui, on ne l'aime que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Non. Alors que Allah ta'ala, on l'aime en lui-même. En lui-même. C'est pour ça que certains savants disent, eh, c'est ça la vue le plus juste. Le prophète, alayhi salatu wasalam, pourquoi on l'aime? Parce qu'il s'appelle Mohammed? Non. Parce qu'il est le fils de Amina? Non. Parce qu'il est le fils de Abdullah? Non. Parce qu'il a quatre oncles? Non. Pourquoi qu'on l'aime? Parce que c'est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'aimer et de le suivre. Donc, on l'aime pas en soi, en lui-même. Mais on l'aime parce que Allah ta'ala nous a ordonné de l'aimer et de le suivre. C'est pour ça qu'il a dit, ici, Allah est aimé pour lui-même de tous les points de vue. Et tout ce qui est autre que lui, n'am, n'est aimé qu'en conséquence de son amour, azza wa jal. L'obligation de l'amour d'Allah est indiquée par l'ensemble de ses livres révélés, le prêche de tous ses messagers, la sainte nature, même la sainte nature elle-même, n'am, sur laquelle il a créé ses serviteurs, ce qu'il a établi en eux comme raison et les bienfaits dont il les a couverts, tout ça, yani, indique et montre clairement, yani, qu'il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Car les cœurs sont créés sur l'amour pour celui qui se montre généreux et bon. Alors, que dire de celui, yani, Allah azza wa jal, dont émane toute bienfaisance et dont proviennent, seul et sans associé, tout ce qu'il possède, tout ce que possèdent ses créatures comme bienfait. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. An-Nahl, verset 53. Tout ce que vous possédez comme bienfait provient d'Allah. Puis, quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Je répète, tout ce que vous possédez comme bienfait provient d'Allah. Puis, quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que vous possédez comme bienfait provient d'Allah. Attention à ce que tu crois que un bienfait des bienfaits est venu de toi, ou ta famille, ou ton voisin. Ou... Tout cela, ce n'est que sabab. Ce n'est que sabab. Allah Ta'ala ne va pas ouvrir la porte du ciel et te faire descendre le bienfait comme ça, mais il fait des sabbes. Il fait de certains gens des sabbes pour qu'ils te ramènent quelque chose, yani, que tu aimes, qui est un bienfait. Mais tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bienfait. Toutes les ni'mas viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, ce qu'il a fait connaître à ses serviteurs de ses noms magnifiques et de ses attributs élevés, ainsi que ce qu'indiquent les conséquences de ses actes comme perfection, splendeur, majesté et gloire. L'amour est provoqué par deux motifs. Non. L'amour est provoqué par deux motifs. Il y a deux choses qui nous poussent à ce qu'on aime. C'est quoi la première? Il a cité les deux, la beauté et la majesté. Deux choses, la beauté et la majesté. Et le Seigneur possède la perfection totale en cela. C'est le plus beau, est le plus majestueux. Il est beau, Azzawajal, et aime la beauté. Et plus encore, toute la beauté lui appartient. Et toute majesté vient de lui. Ainsi, rien d'autre que lui ne mérite d'être aimé pour soi. Allah Azza wa Jalla a dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Sourate Ali Imran, verset 31. Dis à Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Dis à Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Voilà, vous aimera. Ce verset a été, Allah Ta'ala l'a fait descendre comme épreuve à certains qui ont dit quoi? Il y en a qui ont cessé de dire on aime Allah, on aime Allah. Allah Ta'ala les a éprouvés. Dis-leur à Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Moi, le prophète, Hassan, suivez-moi. Si vous me suivez, Allah vous aimera. En d'autres termes, si quelqu'un dit j'aime Allah et ne suit pas le prophète, alayhi salatu wasalam, on lui dit tu te trompes, pour qu'on ne dise pas que tu es un menteur. Mais on va dire que tu te trompes, tu es djahil et tu ne sais pas. Tu ne sais pas que, yani, on ne peut pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala si on contredit son prophète, alayhi salatu wasalam. Car c'est lui qui a dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le prophète, sallam, et Allah vous aimera. Ça veut dire, si vous ne me suivez pas, Allah azza wa jalla ne vous aimera pas. Il a dit aussi dans un autre verset, Sourate Al-Ma'ida, 2 versets, verset 54-56. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Oh vous les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, alors sachez qu'Allah Azza wa Jal suscitera un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, humble envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte sur le sentier d'Allah, ne craignant aucun reproche. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Et Allah est immense et il sait tout. Vos alliés ne sont qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la prière, s'acquittent la zakat et s'inclinent devant Allah. Et celui qui prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira. Car c'est le parti d'Allah, il sera victorieux. Donc, pour ceux qui apostasient, qu'Allah Ta'ala nous préserve, alors qu'ils sachent qu'Allah Ta'ala suscitera un autre peuple, fera venir un autre peuple, qu'il aime lui, et qui l'aiment, et qui eux l'aiment. Et ils ont quelle qualité? Ils sont humbles envers les croyants, et fiers et puissants envers les mécréants. Maintenant, tu trouves beaucoup de gens qui font le contraire. Il est humble envers les mécréants, et très respectueux, et avec un bon comportement. Et tu le trouves puissant envers les croyants, rude envers les croyants, dur avec les croyants. Al-Qayyim dit, le fondement de l'alliance est donc l'amour. Il n'y a donc aucune alliance sans amour. Je ne peux pas être l'allié d'Allah si je ne l'aime pas. Et Allah Ta'ala ne me prend jamais pour allié s'il ne m'aime pas. Est-ce que Allah Ta'ala va prendre Pharaon comme allié, ou va prendre Iblis comme allié, ou va prendre Abu Jahl comme allié? Voyez, donc il a dit ici, il n'y a donc aucune alliance sans amour. De même que le fondement de l'inimitié est la haine. Allah Azza wa Jal est l'allié de ceux qui ont cru. Et ils sont ses alliés. Ils le prennent pour allié en l'aimant. Et il les prend pour alliés en les aimant lui. Ainsi Allah Azza wa Jal est allié de son serviteur en fonction de son amour pour lui. Même cette alliance entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la même entre moi et toi et X et Y. Entre nous tous, les croyants. On a tous une alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette alliance est plus ou moins, yani, forte, d'après quoi? En fonction de notre amour pour lui. C'est pour ça que, par exemple, moi, mon alliance, par exemple, est assez faible comparée à l'alliance de, par exemple, mon voisin. Et mon voisin, yani, son alliance est peut-être aussi assez faible par rapport à Y. Et comme ça. Si on va comparer, par exemple, notre alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, comparer avec l'alliance de Abu Bakr Siddiq avec Allah ta'ala, Omar al-Khattab avec Allah subhanahu wa ta'ala, et comme ça. Est-ce que c'est la même alliance? Je veux dire, la même puissance dans l'alliance. C'est pas possible. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal a désavoué celui qui prend des alliés en dehors de lui. Au contraire de celui qui prend pour allier ses alliés. Car il ne les aura pas pris pour alliés en dehors de lui. Mais son alliance avec eux compte parmi la complétude de l'alliance avec lui. Ah. Une seconde. Allah Azza wa Jal a désavoué. Allah Azza wa Jal a désavoué ceux qui mettaient un autre au même rang que lui, Azza wa Jal, dans l'amour. Et il a mentionné que celui qui agit ainsi lui attribue un égal qu'il aime comme on aime Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il a dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Surat al-Baqarah, verset 165. Parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Et l'amour des croyants pour Allah est plus fort que celui de ces gens pour leurs idoles. Il mentionna ceux qui lui attribuent des égaux dans l'amour, et ils diront en enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire à ce qu'ils adoraient, يوم القيامة, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tallahi in kunna la fi dalalin mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin. Shu'ara 87-98. Donc, يوم القيامة, quand ils vont voir qu'ils se sont trompés, na'am, en faisant deux des égaux par rapport à Allah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Par Allah, ils vont jurer. Nous étions vraiment dans un égarement total et évident. Quand est-ce que, lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers, na'am, tallahi, ils vont jurer par Allah, tallahi, nous étions vraiment dans un égarement total, na'am, car nous avons fait de vous des égaux du Seigneur Azza wa Jal. C'est avec cette unicité dans l'amour qu'Allah Azza wa Jal a envoyé tous ses messagers et révélé l'ensemble de ses livres et qu'a appliqué le prêche de l'ensemble des messagers du premier au dernier. C'est également la raison pour laquelle ont été créés les cieux et la terre, le paradis et l'enfer, faisant du paradis la demeure de ses adeptes et de l'enfer la demeure de ceux qui lui associent en cela. Le prophète alayhi sallam a juré lorsqu'il a dit: aucun de vous ne croira tant qu'il ne m'aimera pas plus que son enfant, son parent et l'ensemble des gens. Rapporté par Bukhari numéro 14 et Muslim numéro 44. Aucun de vous ne sera croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que son enfant, son parent et l'ensemble des gens. Pour que tu comprennes un peu ce hadith, si on te fait choisir, voilà, il y a un feu, choisis, Naam. On te jette toi dans ce feu, ou là on te jette du 50e étage, ou bien on jette le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis choisis, tu es libre. Tu veux que ça soit toi. Yani, alhamdoulilah, lui il sera sain, sauf bien qu'entre parenthèses, personne ne peut le tuer, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, mais c'est un exemple pour que vous compreniez. Ou alors, tu dis non, tu dis j'aime bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas à ce point. Donc ici, tu n'es pas un vrai croyant. La même chose pour ton enfant. On te dit, on jette ton enfant dans le feu ou le prophète alayhi sallam. Choisis, il faut qu'on jette l'un des deux. Pour que tu dises, j'accepte que ce soit mon enfant. Mon père. ma mère et l'ensemble des gens, tous, ma'alish, pas le prophète alayhi sallam. Non. Il dit ici, c'est-à-dire, tu ne croiras que lorsque ton amour parviendra à ce point. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam assure nous plus de droits que nos propres personnes ont l'amour et ses corollaires. Subhanallah. Si le prophète alayhi wa sallam, donc vous voyez ici qu'il a quoi? Qu'il a plus de droits que, sur nous que nos propres personnes. Que nos propres personnes et notre famille. Il dit, en l'amour, question d'amour et ses corollaires, alors le Seigneur, que sa majesté soit célébrée, que ses noms soient sanctifiés, que la bénédiction de son nom s'étende, que sa majesté soit élevée, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Alors le Seigneur, n'est-il pas plus digne de l'amour de ses serviteurs qu'eux-mêmes? Vous avez compris? Si le prophète Aslam, une personne comme nous, créée comme nous, et qui mange et qui boit et qui va au marché, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, qui va même yani, faire ses besoins comme nous, et elle a tous ses droits qu'on vient de citer sur nous. Elle a plus de droits sur nous que nous-mêmes. Alors qu'en est-il le Créateur? N'a-t-il pas plus de droits que sur nous que nous-mêmes? Tout ce qui vient de lui, Azza wa Jal, vers son serviteur, l'appelle à son amour. Que ce soit ce que le serviteur aime ou réprouve. C'est pas seulement ce que les choses qui viennent de lui qu'on aime. Même les choses qu'on n'aime pas. Appelle à l'amour du Seigneur. Son don ou sa privation. Même quand il te prive de quelque chose. Même quand il te donne un malheur. Tout cela, ça doit pousser à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, pour ceux qui le connaissent, ils estiment à sa juste valeur. Naam. Car certains juhel vont dire donc qu'il m'a donné un malheur, donc il ne m'aime pas. Donc ça ne pousse pas à l'aimer. Que Allah Ta'ala nous préserve. Et si maintenant quelqu'un avait bien appris la aqida, et c'est que le mal ne provient pas d'Allah, mais de ses créatures. Certes, le mal a été créé par Allah, mais il ne le fait pas. Il l'a créé, ce sont les créatures qui le font. Et c'est nous qui le faisons. Et c'est notre nefs qui le fait. C'est le shaitan qui le fait. Nos passions qui poussent à le faire. Et comme ça, or tu saurais que, yani, c'est donc il ne t'a pas voulu ce mal. Et si tu l'as voulu maintenant à supposer cela, c'est qu'il y a derrière un grand bien que nous ne connaissons pas. À part que, il enlève les péchés. Si on patiente, ça donne des hasanats. Et ça fait monter la foi, et ça fait monter dans les échelons, et comme ça c'est pour ça que le prophète alayhi sallam a dit dans Sahih al-Bukhari que quand Allah Ta'ala aime quelqu'un yani, il lui donne une musiba. Quand Allah aime quelqu'un il lui donne une musiba. Non, il a dit yusib minhu, et dans une autre version yusab minhu, comme ça, sans citer le sujet. Al-Muhim, son serviteur, tout ce qui vient de lui Azza wa Jal, vers son serviteur l'appelle à son amour, que ça soit ce que le serviteur aime ou réprouve, son don ou sa privation, son salut ou son épreuve, sa retenue lorsqu'il retient des choses, il ne les donne pas, ou son déploiement, son équité, sa grâce, son don de la vie et de la mort, sa douceur, sa bonté, sa miséricorde et sa bienfaisance, sa préservation et sa protection, sa clémence et sa patience face à ses serviteurs, son exaucement de l'invocation, sa levée de l'affliction, son secours du malheureux, son soulagement de son affliction, sans pour autant qu'il ait besoin de lui. Mais il se passe totalement de lui, de tout point de vue. Tout ce que fait Allah Azza wa Jalla ici, sans avoir besoin de toi, yani, de tous les points de vue. Nous, quand on fait quelque chose à quelqu'un, quelque chose de bien, ou un service, ou bien, naam, yani, on a toujours dans la tête cette petite chose que peut-être cette personne, demain, on aura besoin d'elle. Ou du moins pour qu'elle dise de nous qu'on est bien. Qu'elle nous fasse des éloges. Oui, mais il y a toujours un petit intérêt quelque part. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun intérêt. De tous les points de vue. Pas possible. Tout ce qui te fait comme bien repousse de toi comme mal pour tes intérêts, toi seulement. Il n'a aucun intérêt avec toi. Naam. Il dit, tout cela, ce qu'on vient de citer, appelle les cœurs à le déifier, à le prendre comme Dieu, le déifier. et l'aimer. Plus encore, le fait qu'il permette à son serviteur de lui désobéir. Écoutez bien. Le fait que Allah Ta'ala permette à son serviteur de lui désobéir, qu'il l'aide dans cela, et le dissimule, le laisse cacher, ne le dévoile pas, jusqu'à ce qu'il assouvisse son désir, qu'il le protège et le garde, alors qu'il assouvisse son désir en lui désobéissant, qu'il l'aide en cela, et que le serviteur utilise ses bienfaits à cet usage, compte parmi ce qui appelle le plus à l'aimer. Compte parmi ce qui appelle le plus à l'aimer. Comment toi tu fais des péchés, des grands péchés, et Allah Ta'ala ne te dévoile pas, tu les fais en cachette, il te les laisse faire. S'il avait voulu, il t'aurait pas laissé faire. Il te laisse faire. Naam. Te permet. Naam. Alors donc, tu emploies tout ça, naam, yani, pour lui désobéir. Et il ne te dévoile pas, il te laisse faire. Il a dit, tout cela compte parmi ce qui appelle à aimer Allah Azza wa Jalla le plus. Si une créature réalisait pour une autre la moindre de ces choses, elle ne pourrait empêcher son cœur de l'aimer. Naam. Si une créature te faisait comme ça, tu ne pourrais empêcher ton cœur de l'aimer. Alors comment le serviteur n'aimerait-il pas de tout son cœur et ses membres celui qui est aussi constamment bienfaisant envers lui que le nombre de ses respirations, bien qu'il soit malfaisant? Le bien de l'azul descend, vers le serviteur, et le mal du serviteur monte vers lui. Il se fait aimer de lui par ses bienfaits, alors qu'il se passe de lui, et le serviteur se fait détester de lui par les péchés, alors qu'il a besoin de lui. Subhanallah. Je répète cette phrase tellement c'est important. Il dit, il se fait aimer, l'azul se fait aimer de lui par ses bienfaits. Non. Il se fait aimer de lui par ses bienfaits. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala se passe de la personne. On n'a pas besoin d'elle. Et le serviteur se fait détester de lui, azza wa jalla, par les péchés. Alors qu'il a besoin de lui. Rien de sa bienfaisance, sa bonté et de ses dons ne l'empêche de lui désobéir. Et rien de la désobéissance du serviteur et de sa vilenie ne stoppe la bienfaisance de son Seigneur envers lui. La chose la plus vile est donc que les cœurs n'aiment pas celui qui est ainsi et qu'ils s'attachent à l'amour d'un autre. C'est ça la chose la plus vile. Aussi, tout être que tu aimes parmi les créatures et qui t'aime ne te veut que pour lui et la réalisation de son objectif. Ça c'est vrai. Tout être que tu aimes parmi les créatures dans ce monde et qui t'aime ne te veut que pour lui et la réalisation de son objectif. Pourquoi il t'a aimé? Pourquoi toi tu aimes une personne si tu n'as pas des intérêts avec cette personne? Des intérêts avec cette personne. Là, si c'est un couple, peut-être l'intérêt c'est d'assouvir ses passions. Oui, mais il y a un intérêt quelque part. Il dit, tout être que tu aimes parmi les créatures et qui t'aime ne te veut que pour lui et la réalisation de son objectif. Non. On dit que c'est pas le propriétaire. Par exemple, quand on travaille chez quelqu'un, comment qu'on appelle le maître? C'est pas le maître. Le patron, par exemple. Le patron. Il dit, il aime bien cet employé, par exemple. Voilà, l'employeur. Il aime bien cet employé. Il aime bien Fawzi. Il l'aime bien. Ah bon, il l'aime bien, machallah. Mais en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, Fawzi vient à l'heure et sort le dernier et ne s'absente jamais. Et ceci et cela. Donc, il a toujours un objectif. Il y en a des choses qui l'ont poussé à t'aimer. Alors qu'Allah te veut pour toi. Non. Tous les autres qui aiment, on aime pour nous. On veut celui qu'on a aimé pour nous. Alors que l'Azza wa Jal te veut pour toi. Pour toi. Comme il est mentionné dans le récit divin, mon serviteur, chacun te veut pour lui, et moi je te veux pour toi. Mon serviteur, chacun te veut pour lui, et comme ça, mais moi je te veux pour toi. Comment le serviteur peut-il ne pas être gêné que son seigneur soit pour lui assurant, alors qu'il se détourne de lui et se consacre à l'amour d'un autre dans lequel son cœur se plonge. Ainsi, tout être avec lequel tu maintiens une relation, s'il n'y gagne rien, n'établit pas cette relation avec toi. On l'a dit tout à l'heure, il y a toujours des intérêts dans toute relation. Il n'y a aucune relation comme ça vide. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des intérêts. Ainsi, tout être avec lequel tu maintiens une relation, s'il n'y gagne rien, n'établit pas cette relation avec toi. Et il est nécessaire qu'il y ait une forme de gain. Voilà. Il faut qu'il y ait du gain. Alors que le Seigneur Azza wa Jal n'établit cette relation avec toi que pour que tu réalises sur lui le plus grand et le plus élevé des gains. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala établit avec toi cette relation, pas pour que ce soit lui qui réalise des gains, mais pour toi, pour que cette relation t'aide à ce que tu réalises les plus profitables des gains. Le dirham est rétribué de 10 à 700 fois et plus encore. Non. Tu donnes un dirham, ça compte au moins 10 fois, 10 dirhams, jusqu'à 700 fois et plus. Alors que la mauvaise action n'est comptée qu'une seule fois. Et elle est la chose la plus rapide à être effacée. Ici, il a oublié de mettre le « et ». Et elle est la chose la plus facile, la plus rapide à être effacée. Aussi, Allah Azza wa Jal t'a créé pour lui, et il a créé toute chose pour toi. En ce bas monde et dans l'au-delà. Alors, qui est plus digne que lui qu'on se consacre à son amour et fasse des efforts en s'y comportant son agrément. Aussi, tes requêtes et celles de toutes les créatures sont auprès de lui. Et il est le plus munificent et généreux. C'est-à-dire le munificent vraiment d'une grande générosité. Il donne à son serviteur avant qu'il ne lui demande. Et au-delà de ce qu'il espère, il accepte une œuvre minime et la fait croître. Il pardonne de nombreuses fautes et les efface. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre, lui demande chaque jour. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Écoutez une chose, ne le détourne pas d'une autre. La multitude des demandes ne l'induisent pas en erreur. Il ne se lasse pas de l'insistance de ceux qu'il implore. Et au contraire, il aime l'insistance dans l'invocation. Il aime qu'on lui demande. Il se courrousse si on ne lui demande pas. Ça, il y a un hadith sahih qui dit comme ça. Que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne lui demande pas, yagdab. Inna Allaha, de lam yus'al yagdab. Cheikh al-Albani a dit sahih. Quand on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala, yagdab. Pourquoi? Parce que, il dit donc, celui-là, c'est un mutakabbir. C'est un orgueilleux. Non, mutakabbir. Il veut pas montrer qu'il a besoin de moi. Donc, il prétend ne pas avoir besoin de moi. Il ne me fait pas des demandes et des requêtes et des invocations. Alors que l'être humain, comme on dit, si tu lui demandes, yardab. L'être humain. Si tu lui demandes, tu lui donnes moi de l'argent, là, yardab. Je te donne une fois, ensuite, il devient en colère. Et Allah Ta'ala, c'est le contraire. Plus tu lui demandes pas, plus il devient en colère contre toi. Et plus tu te mets à genoux, tu lèves tes bras, il commence à demander, à pleurer, plus il est ravi de toi et content de toi. Il dit, regardez, mon serviteur, il a reconnu qu'il ne peut se passer de moi. Et il me fait des doigts, il me demande que je lui donne, car il sait que c'est moi qui donne, personne d'autre qui donne. Il sait que c'est moi qui refoule les malheurs, les afflictions. C'est moi qui donne les bienfaits. Naam. Donc ce serviteur, yani, a reconnu cela. Allah Ta'ala, yani, est ravi de lui. Il dit ici, il est gêné devant son serviteur, alors que le serviteur n'est pas gêné devant lui. Il le dissimule, Allah Azza wa Jalla, il le dissimule, alors que le serviteur ne se dissimule pas. Il lui fait miséricorde, alors qu'il ne se fait pas miséricorde. Allah Ta'ala lui fait miséricorde, alors que l'être humain ne se fait pas miséricorde. Non, il va à sa perdition. Il boit des choses, même s'il sait que c'est du poison, qu'il va mourir, il boit. Il boit de la drogue, il boit, il sait que ça fait mal. Il se fait pas miséricorde. Il dit, moi, j'assouvis mes passions. Ce soir, je passe une bonne soirée ivre. Non. Allah Ta'ala veut lui faire miséricorde. Il veut pas qu'il boive. Non. Il essaye de le détourner de cette chose pour qu'il la fasse pas. Non. Il dit ici, il l'a appelé par ses bienfaits, sa bienfaisance et ses dons à sa générosité et son agrément. Mais il a refusé. Alors il a envoyé ses messagers et avec eux, sa promesse. Puis il descendit lui-même et dit, descend au ciel de la dunya, chaque nuit, qui me demande afin que je lui accorde, qui me demande pardon afin que je lui pardonne, comme il a été dit. Il a été dit, je t'appelle pour que tu parviennes à moi et tu refuses. J'envoie mes messagers pour cela. Je descends moi-même vers toi et je te rencontre en rêve. Comment les cœurs peuvent-ils ne pas aimer celui qui seul apporte les bonnes actions et dissipe les mauvaises, et qui seul répond aux invocations, passe sur les faux pas, pardonne les fautes, dissimule les péchés, ne les dévoile pas, dissipe les afflictions, secourt les malheureux et fait parvenir au but recherché. Il est le plus digne d'être mentionné, remercié, adoré et loué. Il est le plus clairvoyant de ceux qui sont visés, le plus digne de ceux qui possèdent, le plus généreux de ceux auxquels on demande, le plus munificent de ceux qui donnent, le plus miséricordieux de ceux auprès desquels la miséricorde est recherchée, le plus noble de ceux qui sont visés, le plus puissant de ceux vers qui on se tourne. Celui qui suffit le plus au serviteur lorsqu'il place sa confiance. Il est plus miséricordieux envers son serviteur qu'une mère envers son enfant. Il est plus heureux du repentir son serviteur que celui qui perd sa monture, portant sa nourriture et sa boisson en un lieu désertique et qui, alors qu'il désespère de la vie, la retrouve. Comme dans le hadith de Bukhari, 6309 et Muslim, 2747. Il est le souverain sans associé, l'unique sans égal. Toute chose périra sauf son visage. Toute chose périra sauf son visage. On ne lui obéit qu'avec sa permission. On ne lui désobéit qu'avec sa science. Écoutez bien, on ne lui obéit qu'avec sa permission. Et on ne lui désobéit qu'avec sa science. On lui et il est reconnaissant. Et c'est par son aide et ses bienfaits qu'on lui obéit. On lui désobéit et il pardonne et fait grâce, alors que son droit est bafoué. Il est le témoin le plus proche, le plus grand des protecteurs, celui qui respecte le plus son engagement, celui qui maintient le plus la justice. Il s'interpose entre les âmes, saisi par le toupet. Le secret est puis appelé pour dévoiler. Chacun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, apparemment, il y a une déconnexion. Allez, Inch'Allah.
Salam alaikum. J'ai pas remarqué. Où est-ce que je m'étais arrêté, Tfazal? On me dit beaucoup de coupures, depuis le début ou bien, dans ce passage, ou bien depuis le début. Avant la déconnexion, d'accord. Donc, on s'est arrêté, celui qui maintient le plus la justice et s'interpose entre les hommes, saisi par le toupet. Je vais chercher où est-ce qu'on s'est arrêté. Bon, passage. Je cherche ce passage que vous avez mis ici sur le texte. Voilà. Donc, celui, il est le témoin le plus proche, le plus grand des protecteurs, celui qui respecte le plus son engagement, celui qui maintient le plus la justice. Il s'interpose entre les âmes, saisi par le toupet, écrit les vies, abroge les existences. Les cœurs reviennent à lui, le secret est pour lui apparent, l'invisible est pour lui dévoilé. Chacun le désire, tous les visages se tournent vers le sien. Les esprits sont incapables de cerner son essence. La saine nature et toutes les preuves indiquent l'impossibilité qu'il ait un pareil ou semblable. Son visage, Azzawajal, a fait resplendir les ténèbres, illuminer les cieux et la terre, réunissant autour de lui l'ensemble des créatures. Il y a un hadith sahih dans Muslim, numéro 179, où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Il ne dort pas, l'Azzawajal ne dort pas, et il ne convient pas qu'il dorme. Il maintient et élève la justice. On élève vers lui les œuvres de la nuit avant celles du jour, et les œuvres du jour avant les œuvres de la nuit. Son voile est lumière. Et s'il le levait, la majesté de son visage brûlerait tout ce à quoi parviendrait son regard parmi ses créatures. » Non. Il a dit, celui qui voue son amour à autre que lui ne pourra obtenir de compensation même s'il possède totalement l'existence. Totalement l'existence. طيب, il reste 3 minutes pour l'Adhan. 3 minutes, ça ne suffit pas. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, sera la perfection du plaisir et du bonheur. La perfection du plaisir et du bonheur. C'est long. On arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, et on se rencontre après la salat بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم, pour les questions réponses, c'est pas pour le cours est terminé aujourd'hui, inshallah. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si vous êtes prêt, inshallah تعالى, تفضل, je suis prêt.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ, est-ce que vous avez du son? Alhamdulillah. Donc le temps que le frère Mahmoud en revienne, Inch'Allah, je vais commencer les questions. Donc première question, question d'une sœur. Assalamu alaykum Cheikh. Un enfant de 12 ans demande, est-ce que l'on fera la salat au paradis? Jazakallahu khair. Tafadhal ya Cheikh.
Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Dans le cours passé, la dernière question à laquelle j'avais répondu, si j'ai une bonne mémoire, c'est bien celle-là. Est-ce que dans le paradis, je crois même qu'on a dit, est-ce que dans l'enfer aussi, Wallahu alam. Est-ce que dans le paradis, est-ce qu'il y a yani, des adorations ou pas? Et j'avais dit que le paradis, c'était un endroit de délices et de délectation et de plaisir, et non pas d'adoration. Sauf pour celui qui veut faire des choses de lui-même. Non. Si de lui-même, il veut faire des ablutions, par exemple, ou alors il veut prier de rak'atoula, personne ne peut l'empêcher. Mais il n'y a aucune obligation à faire dans les adorations. Non. Mais c'est plutôt, yani, la maison, c'est la maison des délices, c'est là-bas qu'on est rétribué et récompensé. Et la salat, etc., on l'a fait ici. Et beaucoup de gens se trompent, est-ce que vous m'entendez? Et beaucoup de gens se trompent aussi lorsqu'ils disent, et ça en entendant beaucoup de musulmans qui disent ça, ils disent, si tu pries pas ici, tu vas prier en enfer. Comme ça ils disent, si tu pries pas ici, tu vas prier en enfer. Et ils interprètent même le verset où Allah Ta'ala dit, yasla naran hamiya. Yasla naran hamiya. Ils croient que yasla, ça veut dire yusalli. Alors beaucoup de gens vont te dire, tu vas prier en enfer. En enfer, il n'y a ni prier, ni faire la zakat, ni faire le hajj. En enfer, il y a le châtiment douloureux. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Quiconque n'a pas prié ici, c'est trop tard pour lui. Il n'a pas ou prié. Naam. Tfadlal.
Barakallahu fikum, cheikh. Donc le frère Mahmoud est arrivé. Le temps qu'il se prépare, inshallah, je vais poser la deuxième question. Deuxième question, question d'une sœur. Question sur la prière. Cheikh, si on se trompe lors du tashahhud et de la récitation de surat al-fatiha, mais que l'on se corrige lorsqu'on se rend compte de notre erreur, devons-nous faire sujoud saw, prosternation de distraction? Barakallahu fikoum. Fadal ya cheikh.
Quand on se rend compte et on corrige, naam, sans faire autre chose de plus, naam, par exemple on ne s'est pas levé, ensuite on est revenu corriger, ou alors déjà lorsqu'on se lève on n'a pas le droit de revenir, naam. Mais que, il y en a par exemple, c'est moi-même qui me suis vite rendu compte par exemple, et il y en a, j'ai corrigé, il n'y a rien, bi'idhnillahi ta'ala. Je donne un exemple. Je dis Allahu Akbar pour commencer la prière. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ou plutôt Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katira, subhanallah bukratan wa asila, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ensuite je dis qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ensuite je me rappelle, je me dis j'ai pas lu la Fatiha. J'arrête au milieu de la sourate et je reviens vers la Fatiha, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim. Je n'ai pas besoin de faire sujoud sahou bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un le fait, c'est pas grave aussi. Pourquoi? Parce que sujoud sahou, des fois il est fait pour l'obligatoire, des fois il est fait pour la sunna. Pour l'obligatoire, on doit le faire. Et pour la sunna, on choisit. C'est sunna de le faire. Et si on ne le fait pas, il n'y a pas de hitm. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadlal. La troisième question.
Jazakallah khairan ya cheikh, donc salam alaikum, afwan pour le retard. Donc nous allons commencer à la troisième. Nous allons continuer afwan. La troisième question d'un frère qui demande Ahsanallahu ilaykum ya cheikhana, ma question concerne les invocations. J'avais l'habitude à chaque fin de prière obligatoire et surérogatoire de lever les mains et invoquer mon Seigneur. Un frère m'a fait la remarque comme quoi c'est une innovation. Depuis j'ai arrêté et je le fais de temps en temps à la fin de mes prières de sunna. C'est-à-dire surérogatoire. Est-ce que ceci est vraiment une innovation? Et si c'est le cas, à quel moment est-il permis de lever les mains pour invoquer son Seigneur? Merci cher pour ces cours, qu'Allah nous guide dans le droit chemin et nous raffermisse dans sa religion. Amin.
Pour le fait de lever les mains pour les invocations, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se divise en trois. Il y a des endroits et des moments où c'est interdit de lever les mains pour les invocations. Il y a des endroits où c'est sunna, c'est bien de lever les mains. Et il y a le troisième endroit ou la troisième sorte où yani, c'est seulement permis. Si on lève les mains, on lève. Si on ne lève pas, on ne lève pas. Avec yani, une petite remarque qu'on va citer quand on va arriver à la troisième sorte. Donc la première sorte, où c'est interdit de lever les mains dans les invocations, c'est dans la salat. Par exemple, quand je suis dans le sujoud, je dis subhanabil a'la ou bihamdi, subhanabil a'la ou bihamdihi, par exemple subhanabil a'la. Ensuite je m'assois pour me préparer à la deuxième prosternation. Quand je m'assois, qu'est-ce que je dis? Je dis par exemple Rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni. Ou bien je dis Rabbi ghfirli, comme ça. Maintenant, si ici je vais lever les mains, quand je dis Rabbi ghfirli warhamni wahdini, je vais lever les mains. C'est haram. Non, parce que j'ai inventé quelque chose et j'ai ajouté quelque chose dans le din. Kullu mar'in laysa 'alayhi amruna fa huwa radd, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que vous remarquez, si vous priez une fois devant un chiite ou un rafidi, vous allez remarquer que quand il fait le ruku', je ne sais pas ce qu'il dit bien sûr, ensuite quand il se lève, il dit Sami'a Allah liman hamidah, il lève les mains vers le ciel et il fait des doigts. Sami'a Allah liman hamidah, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Ensuite il fait le sujoud. Comme ça font tous les rawafid, les chiites. Je les ai vus au Koweït. Donc, dans la salat, c'est interdit. Naam. C'est interdit où aussi? C'est interdit quand l'imam est sur le mimbar le vendredi, quand il termine et il lève les mains et commence à faire les doigts. C'est interdit. Naam. Amran ibn Ru'ayba, un sahabi, a vu quelqu'un faire comme ça. Il est rentré à la mosquée, il a vu l'imam pendant le Jumu'a, il lève les mains, il fait doua à la fin. Il lui a dit, قبح الله هاتين اليدين والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يزيد على هذه في الدعاء ورفع إصبعه. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala fasse périr ses deux mains, يعني tes deux mains. Il lui a dit, j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم sur le minbar faire des doua, il ne faisait pas plus que cela et il a levé le doigt avec lequel on fait tashahud, c'est-à-dire le pouce, l'index. Il a levé l'index. Il a dit comme ça, le prophète Hassan, quand il faisait doigt, il levait l'index vers le ciel et disait Allahumma ighfir lana warhamna, et comme ça. Donc, sur le mimbar aussi, c'est interdit. C'est interdit aussi de lever les mains quand l'imam fait des doigts. L'imam, il est sur le mimbar, il fait des doigts et nous, on va lever nos mains avec lui. C'est interdit aussi. Taïb, où c'est sunna de lever les mains? Quand on est à Arafat. Naam. Safa ou le Marwa aussi. Safa ou le Marwa. Et où c'est sunna aussi? Safa ou le Marwa et à Arafat. Et attendez, il nous manque Wahda. Taïb. Entre Aden et Iqama. Non, entre Aden et Iqama, il y a Doua, mais il n'y a pas levé les mains. On est en train de parler où est-ce qu'on lève les mains. Tayyib. Et maintenant, à part ce que j'ai cité, yani, dans toutes les autres conditions, la personne est libre entre, quand elle fait du Doua, elle lève les mains ou ne lève pas. Exemple, maintenant je suis assis, hein, je viens de me rappeler que ma mère est malade. C'est un exemple. Je veux faire des doigts. Est-ce que je lève les mains ou je lève pas? On est libre. Soit on lève, soit on lève pas. Avec la remarque que la base c'est de lever les mains. Car le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yistahi. Allah subhanahu wa ta'ala yistahi. Yani, quand quelqu'un lui lève les mains, de lui rendre les mains vides. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yistahi, je ne sais pas comment qu'on dit, comment qu'on a, je ne sais pas comment qu'on a ce hadith, comment qu'on l'a traduit. C'est-à-dire que, parce que yistahi, ça veut dire, il est gêné, voilà, il est gêné, barakallahu fik. J'ai pas vu ça. Gêné. Non. Et j'ai oublié de vous dire que pendant le qunut, c'est sunnah de lever la main. C'est ce que je cherchais justement. Non, pendant le qunut, c'est sunna aussi de lever les mains. Aussi pendant le ramadan, quand l'imam lève les mains pour faire le qunut, et les gens derrière lui lèvent. Voilà aussi l'endroit où c'est sunna de lever. El Mouhim, à part ces endroits, non, comme on va en PV, invocation de la pluie. Invocation de la pluie. L'istisqa. Sah. Ahsant. L'istisqa, j'ai oublié pour l'istisqa. L'istisqa, c'est quand c'est pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. Naam, ça rentre ça aussi. Donc, à part cela, à part ces endroits, si on veut lever la main ou ne pas lever, on est libre, mais c'est mieux de lever à cause du hadith que vous voyez d'après vous, que vous voyez ici. Le prophète al-Islam a dit, certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. Maintenant, revenons spécialement au cas de la salat. Quand je termine la salat et je lève les mains. Si je le fais constamment, chaque fois que je termine la salat, je lève les mains, que ça soit dans l'obligatoire ou surrogatoire. Ça devient quoi? Ça rentre dans la bid'a. Pourquoi? Car je viens d'ajouter quelque chose. Non. Mais si je le fais de temps en temps, ce n'est pas à cause de la salat. Mais quand j'ai terminé par exemple ma salat, Ensuite, je me suis rappelé quelque chose de très important et je me rappelais que mon voisin est à l'hôpital, j'avais oublié. Par exemple, je lève les mains et je fais doigt. C'est permis. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la salate. Ça veut dire que j'allais lever les mains si je me suis rappelé, même si j'étais en voiture ou j'étais dans le train. Mais je me suis rappelé derrière, après la salate. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la salate. Mais c'est parce que je viens de me rappeler maintenant. C'est comme ça qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et aussi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il a dit, si c'est comme ça, c'est permis. Car le hadith a dit que Allah ta'ala était gêné quand on lève les mains et il répond pas. Mais si maintenant on va le faire après chaque salate, les gens vont croire que ça c'est sunna. Et tout le monde va lever les mains après la salate au point où, si jamais tu lèves pas, il va te dire que tu as délaissé une sunna. Non, mais si comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec la salate, mais tu viens te rappeler une chose après la salate et tu veux lever les mains, ce n'est pas interdit bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non, tfadval.
Jazakallah khairan, cher. Donc nous allons poursuivre avec la quatrième question. Donc question d'une sœur qui demande, question sur la prière, cher, est-il permis de retarder la prière d'Al-Aïcha car on est occupé par une chose et en même temps espérer la récompense du Isha en son meilleur temps. Ou bien, le fait de retarder l'Isha est permis seulement si on le fait quotidiennement. Donc c'est une question d'une sœur, c'est la quatrième, trois de l'Isha.
Non, c'est permis de la retarder si ce n'est pas quelque chose, par exemple, on ne l'a pas retardé à cause de, je suis en train de voir un film ou un match ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, je l'ai retardé dans le but que je veux, yani, faire la sunna et la retarder, à cause que son moment, c'est mieux quand on la retarde un peu. C'est bien. Mais, ce n'est pas dans le sens que, yani, je la retarde parce que, yani, à cause d'un péché ou là. Non. Mais, je peux la faire maintenant, mais je la laisse un peu, là, je la retarde un peu, yani, ma'alish. En sachant que, on a demandé au prophète sallam quelles sont les meilleures œuvres. Il a dit la salat en son premier moment. La salat en son premier moment. Maintenant, si je retarde l'Aïcha, si par exemple je suis imam à la mosquée et que on fait un accord avec tous ceux qui prient, on dit Aïe l'Aïcha, on va la retarder un peu, on ajoute une heure. On va faire un cours ou je ne sais quoi. Un ma'lish. Mais si par exemple je suis un homme qui prie à la mosquée et maintenant on vient d'appeler à la prière à la mosquée, je peux pas dire je vais la retarder, je vais prier à la maison, mais je dois aller prier à la maison bi-idhnillah ta'ala. Et si on est à la maison et on est une femme par exemple, je suis en train de préparer le manger et maintenant c'est le moment de l'Aïcha, je peux attendre par exemple jusqu'à la fin de terminer. Non, je suis en train de laver la vaisselle, j'attends jusqu'à ce que je termine comme ça. Tout ça, ce n'est pas grave. Une demi-heure, une heure. C'est pas grave, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, car c'est toujours en son moment. Bi-idhnillah ta'ala. Tfadlal.
Jazakallah khayran ya cheikh. Nous allons passer à la cinquième question. Question d'un frère qui demande qu'Allah vous récompense pour tous les efforts que vous faites pour aider la communauté francophone et l'ensemble des musulmans, des muslimines. Et qu'Allah récompense aussi les admins qui vous assistent et sont toujours assidus au cours. Ma question porte sur la prière. Doit-on réciter l'invocation d'ouverture de la prière, c'est-à-dire de Atul Istiftah, derrière l'imam lors des prières récitées à haute voix? Et pouvez-vous donner conseil à un frère qui ne cesse de délaisser et de reprendre la prière? Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya cheikh. Tafadhal.
Vous avez remarqué avec moi que maintenant qu'on a permis les questions sur la salate, que jusqu'à présent, il y a 5 questions, donc sur 10, jusqu'à présent. Les 5 avaient rapport avec la salate. Et aucune question n'a rapport avec le cours. Vous avez remarqué? Oui, malish. Donc par rapport à, il dit, doit-on rester l'invocation d'ouverture de la prière, doit istiftah, derrière l'imam lors des prières récitées à voix haute? Je laisse, Inch'Allah Ta'ala, Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullahi ta'ala, te répondre. Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, te répondre. Tayyib. Une seconde. C'est pas lui qui a téléphoné, hein. Allah yirhamou. Une seconde. Donc, je disais, Cheikh Ibn Othaymin, rahimahullah ta'ala, va répondre à la question de est-ce qu'on lit derrière l'imam du'a al-istiftah. Il dit, إذا دخل الرجل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة. Si quelqu'un rentre à la mosquée, il trouve l'imam en train de lire l'fatiha. Écoutez bien, je rentre et je trouve l'imam en train de lire l'fatiha. Nous on parle de, il y a voix haute, sinon s'il y a voix basse, j'ai pas de problème. Maintenant je rentre et je trouve l'imam en train de lire à voix haute. وهو يقرأ سورة إذا دخل مع الإمام بعد أن قرأ عفوا إذا دخل الرجل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر وينصت. Il a dit, il dit Allahu Akbar et il écoute. Il ne fait pas dua al-istiftah. فَإِذَا فَرِغَ الْإِمَامِ مِنَ الْفَاتِحَةِ اسْتَفْتَحَ ثُمَّ قَرَأَ الْفَاتِحَةِ. Il a dit, tu dis Allahu Akbar et tu entends l'imam. Il est en train de lire l'fatiha. Il a dit, quand l'imam termine de lire l'fatiha, tu dis toi dua al-istiftah. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah kabir, subhanallah bukara subhanallah. Il a dit, et tu lis l'fatiha. أما إذا دخل مع الإمام بعد أن قرأ الفاتحة. Mais si par contre il rentre avec l'imam alors que l'imam a terminé de lire الفاتحة. وهو يقرأ الصورة التي بعدها et qu'il est en train de lire la surat qui vient après الفاتحة, l'imam, فهذا يقرأ الفاتحة ولا يستفتح. Dans ce cas, tu lis seulement الفاتحة sans dire dua al-istiftah. نعم. Voilà. Inch'Allah ta'ala. Il a dit wa ala hada fa yakun hada at-tafsil. Il a ensuite résumé, idha dakhala wa yaqra al-fatiha sakat. S'il rentre et trouve l'imam en train de lire al-fatiha, yuskut. Il se tait. Wa idha fariga al-imam min fatiha istaftaha thumma qara al-fatiha. Et si l'imam termine fatiha, lui il fait du'a al-istiftah et il lit al-fatiha. Et si jamais il rentre, wa dakhala ma al-imam ba'da an qara al-fatiha, s'il rentre avec l'imam, il le trouve dans une sourate, pas de fatiha, plus que al-fatiha, il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il kabbir, il dit Allahu Akbar, et il lit le Fatiha sans dua al-istiftah. Wallahu azza wa jal a'lam. Ça c'est par rapport à dua al-istiftah. Maintenant, par rapport à donner des conseils à un frère qui ne cesse de délaisser et de reprendre la prière. Mais le problème, est-ce que ce frère est avec nous? Tfaddal.
Mais par contre, je voulais vous demander, parce que là, j'ai pas très bien compris par rapport à la situation. Mithel, si je suis l'imam, c'est-à-dire que je n'ai pas de retard ou quoi que ce soit, et l'imam commence à faire le takbir, et juste derrière, je le suis par le takbir, et lui, il fait Dorat al-Istiftah. Est-ce que moi, je le fais le temps que lui, il la fasse, ou est-ce que j'attends de la faire à la fin de la Fatiha? Cher, j'ai pas compris pour cette situation-là. Si on est, par exemple, on n'est pas en retard, du tout en retard, et que l'imam, lui, l'a fait, donc il va y avoir un petit instant de silence, est-ce que je peux la faire en même temps que lui? Jazakallah, frère, cher.
D'après Cheikh Ibn Othaymin, rahimahullah ta'ala, tu fais pas. Tu attends qu'il termine Fatiha, ensuite tu fais istiftah et tu lis le Fatiha. Ça, bien sûr, tout ça, c'est d'après l'avis qui dit que c'est obligatoire de lire le Fatiha, quand l'imam lit à voix haute. Sinon, si on va voir ceux qui disent que ce n'est pas obligé de lire le Fatiha quand c'est à voix haute, comme Cheikh Al-Albani, ça change tout. Là, ça change tout. Mais d'après Cheikh Ibn Othaymin, comme je vous ai dit, yani, si jamais il commence à lire le Fatiha, je dois me taire jusqu'à ce qu'il termine le Fatiha pour que yani, je fasse l'istiftah et je lise le Fatiha. Naam. Tfadlala, une autre question, le temps qu'il nous réponde si le frère est là ou pas.
Jazakallahu khairan, Cheikh Barakallahu fik. Donc, nous allons passer à la sixième question. Sixième question, question d'une sœur qui demande, pouvez-vous expliquer la différence entre le shirk majeur et le shirk mineur? Une fadikoum, ya Cheikh. Est-ce que le shirk mineur fait entrer en enfer si on meurt sans se repentir? Est-ce que le shirk mineur fait rentrer en enfer si on meurt sans repentir? Fadal, ya Cheikh, wa jazakallahu khairan.
d'après beaucoup de savants, le shirk mineur fait rentrer en enfer si on meurt sans repentir. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ». Et « an » ici, « yushraka bih », ce qu'on appelle « masdar mu'awwal ». Donc, « Inna Allah la yaghfiru shirk ». C'est ça. « An yushraka bih », ça veut dire « shirk ». Et quand il dit « shirk », c'est global. Ça rentre le majeur et le mineur. Donc, Allah Ta'ala ne pardonne pas le shirk pour quelqu'un qui meurt avec le shirk. Mais la différence entre le mineur et le majeur, c'est que le majeur fait rentrer éternellement en enfer. Et le mineur, l'âme, ne fait pas rentrer éternellement en enfer. C'est-à-dire, la personne va rentrer en enfer à cause du shirk, l'âme, du petit, du mineur, et ressortira un de ses jours ou une de ses années, je ne sais pas quand. Par contre, s'il fait le shirk majeur et meurt avec, il ne sortira jamais de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et parmi les formes du shirk mineur, c'est comme par exemple de faire de l'ostentation dans la salat ou de jurer avec autre qu'Allah Ta'ala. Naam. Ça rentre dans le shirk mineur bi'idhnillahi ta'ala. Fadlan.
Jazakallahu khayran, Cheikh. Donc nous allons passer à la 7e question. Question d'une sœur qui demande: Cheikh, qu'Allah nous accorde faveur dans cette vie ainsi que dans la vie de l'au-delà. Ma question est en lien avec un cours passé. Concernant les rawatib, à quel moment nous est-il permis de prier les 4 rak'a avant le dhuhr? Al-Shafa et Al-Witr font-ils partie des rawatib? Fadal al-Cheikh, mais bon, vous l'aviez déjà dit, je vous rappelle un cours, mais Fadal al-Cheikh.
Donc, concernant les rawatib, à quel moment nous est-il permis de prier les 4 rak'at avant le dhuhr? Oui, je l'ai dit, c'est vrai, plusieurs fois. Il n'est permis de prier les 4 rak'at des rawatib qui sont 2-2, hein. On prie 2, on dit salam alaikum, et on rajoute 2, on dit salam alaikum. C'est la meilleure façon de les faire. Et ce n'est pas 4 à la fois. Un mohem. Ces 4 rak'at ne sont, je peux pas dire ne sont acceptés, mais je vais dire ne sont vraiment dans leur moment que si le moment de Salat al-Dhuhr est rentré. Ça veut dire, s'il n'y a pas encore le Zawal, si le soleil n'a pas encore quitté le zénith, c'est pas Zawal, c'est pas le moment de prier d'or, donc je ne peux pas faire ces 4 rak'at. Vous m'avez entendu? Donc, dans un pays où on entend l'Adhan, on attend l'adhan. Quand c'est l'adhan du dhuhr, je me lève, je fais 4 rak'at, ensuite je prie dhuhr. Dans un pays où il n'y a pas l'adhan, je regarde le calendrier. Quand on me dit dhuhr, c'est à 13h par exemple, le 13h02, j'attends 13h02 minutes, ensuite à 13h03, je prie déjà les 2 premières rak'at et ensuite les 2 autres. Ça y est. Chef et l'huit font-ils partie des rawatib? On a bien dit des dizaines de fois que le chef n'existait pas. Le chef, salat chef, n'existe pas. Mais si on entend par chef les 2 rak'at qu'on fait après salat d'Isha, alors ça rentre dans les rawatib. Ça rentre dans les 12 desquels le prophète alayhi salam a dit: quiconque prie chaque jour 12 rak'at, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison dans le paradis. 12 rak'at. Et parmi ces 12, il y a ce que on appelle ici le chef, les 2 rak'at qui viennent après salat al-Isha. Il dit ici, et l'huit fait-il partie des rawatib? Oui, l'huit fait partie des rawatib, fait partie des sunna mu'akkada. Et parmi sunna mu'akkada, c'est lui le plus mu'akkad. L'huit fait partie des sunan recommandé. Et parmi les recommandés, c'est lui, avec Salat al-Fajr, qui sont très recommandés. Au point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais délaissé dans sa vie la prière du Fajr et la prière du Witr. Qu'il soit en voyage ou qu'il soit chez lui. Vous savez que, quand on est en voyage, on ne prie pas les rawatib. Les 12, on ne les prie pas. Khalas, elles tombent. Et pourtant, Fajr fait partie des 12. On ne le délaisse pas. On doit prier Fajr, même quand on est en voyage. Et Witr fait partie aussi des rawatib. On ne le délaisse pas. On doit prier Witr, même quand on est en voyage. J'espère que la réponse était claire, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadl.
Donc là, il y a une personne qui nous demande, Yacher, par rapport à cela. Il dit, je suis un étudiant, est-ce que je peux donc prier les 4 rakats, c'est-à-dire 2, assalamu alaikum, et 2, assalamu alaikum, après le dhuhr, car je n'ai pas de temps. Tfadl, Yacher, wa jazakallahu khair.
Naam, certains savants ont dit que, et c'est ça, inshallah ta'ala, la vie le plus juste, qu'on peut rattraper. On peut rattraper pour celui qui ne peut pas les prier avant d'or pour une excuse, il va prier les 4 après d'or. Après d'or, après avoir fait les 2. Après avoir fait les 2 qui viennent après. Ensuite, il fait les 4 comme dette. Comme dette. Et si, par exemple, après d'or, il est excusé, il ne peut pas faire les 2 rakat, il les fait après Asr. Et si les 2 qu'on doit faire après Maghreb, il n'a pas pu les faire alors qu'il les rattrape après Isha. Comme ça on dit, certains savants, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib.
Jazakallahu khairan, ya cher. Donc nous allons revenir à la question numéro 5 du frère qui demandait « Et pouvez-vous donner un conseil à un frère qui ne cesse de délaisser et de reprendre la prière ?» Jazakallahu khairan, ya cher. Donc le frère, il est là et il écoute. Donc le cher a eu un problème de connexion. Donc bi'idhnillah, nous allons patienter le temps de son retour. Bi'idhnillah. Barakallahu fikoum.
Il y a eu une déconnexion, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc prenez le micro et dites-moi où est-ce qu'on s'est arrêté. Qu'est-ce que vous avez entendu?
Donc, cher, en fait, nous n'avions rien entendu. Donc, j'avais juste dit que nous revenions à la question numéro 5, où le frère demandait un conseil par rapport à une personne qui ne cesse de délaisser et de reprendre la prière. Et le frère est présent. Donc, si vous pouviez répondre, faire cette nasiha pour ce frère. Barakallahu fik, cher.
Je dis à ce frère, barakallahu fik, akhi, taqidlah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu fais, ça rentre dans les grands péchés. Il y a des sahaba radiyallahu ta'ala anhum, comme c'est l'avis de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum, qui disait que si quelqu'un prie et délaisse une seule prière, il devient kafir. Une seule prière, il devient kafir. C'est l'avis de certains sahaba. Une seule. Je prie toute la journée et je laisse seulement, par exemple, d'or. Je dis, je prie pas d'or. Je suis fatigué, laisse tomber. Ensuite, je vais prier Asr, Maghreb et Isha. Et Subh. Et je n'ai pas prié d'or. Il a dit, on devient kafir. Qu'en est-il maintenant si la personne va laisser des jours et des jours sans prier? Ou bien des mois sans prier? Ensuite, elle revient. Ensuite, Akhifidlah. N'as-tu pas peur qu'il t'arrive un malheur, qu'Allah te préserve, et que tu meurs pendant la période où tu n'es pas en train de prier? S'il y avait quelqu'un qui pouvait nous dire, ou alors nous garantir qu'on n'allait pas mourir. Peut-être on aurait fait ça. Je suis sûr que c'est pas maintenant que je vais mourir, donc j'ai le temps de faire tawba. Mais la mouchkila, personne ne peut savoir ça. Il est possible que, pendant la période où tu arrêtes la prière, il t'arrive quelque chose et tu meurs. Naam. Et ne dis pas, je suis jeune, j'ai encore 25 ans, ou 28 ans, là, je vais pas mourir. Attention que tu te trompes. Le shaitan joue, ou la te ruse. La mort, c'est pas obligé de vieillir. On meurt à 15 ans, 5 ans, 8 ans, 1 mois, 12 jours. Naam. Tout le monde peut mourir. Combien de vieux ne sont pas encore morts? Combien de bébés sont morts? Alors, Akhifidlah, attention. Ne laisse pas Shaitan te ruser. Ensuite, une autre chose très importante. Comment ton âme et ton nefs te permettent-ils de cesser la relation avec l'Aziz al-Jabbar qui t'a créé? Comment Allah Ta'ala, qui m'a créé, qui, si ce n'était pas lui, je n'aurais jamais existé. Je n'aurais jamais été sur cette terre, jamais mangé, bu et profité de ces plaisirs de cette vie. Et maintenant, Naam, comme remerciement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter avec lui la relation. Pendant 15 jours ou un mois, je ne sais pas combien tu as son salat. Et ton cœur, pendant la période où tu ne pries pas, ton cœur est apaisé. Tu ne sens pas un feu comme ça qui brûle dans ton cœur. Tu sens pas que c'est comme si une montagne allait s'écraser sur ta tête. Tu ne sens pas que c'est très grave ce que tu fais. Très, très, très grave. Le pilier de la religion, le plus grand pilier, l'âme, après Shahada, qui est la salat. Les kuffar, yom al-qiyama, quand ils seront en enfer, on va leur dire, qu'est-ce que vous faites là, les kuffar qui ne prient pas? Ils vont dire, lam akum min musallin. À cause de la prière, je ne priais pas. Le kafir, il va dire, à cause de la prière, je ne priais pas, que je me trouve là en enfer. Alors que le kafir ne prie pas. Même si c'est obligé pour lui qu'il prie. Ya akhi, taqillah subhanahu wa ta'ala. Fais tout, sauf, ne délaisse pas la prière. Si c'était à choisir entre faire tout ou bien la prière, ne délaisse pas la prière. Même si la personne fait les grands péchés ou qu'Allah la préserve des grands péchés, mais comparé au délaissement de la prière, ça devient un petit péché comparé au délaissement de la prière. Tellement c'est grave de délaisser la prière. Tellement c'est grave. Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse ta foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse ton cœur sur la foi, qu'Allah ta'ala raffermisse ton cœur sur la salat. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de la salat la joie de tes yeux, au point que si tu ne pries pas, tu vas sentir vraiment que ton cœur va se déchirer. Naam. À nous aussi, naam, à tout le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la salat devienne la joie de nos yeux. Et quand la salat maintenant, tu vas t'habituer à elle, et tu la fais vraiment pour Allah, et tu la fais vraiment, sans contrainte, c'est toi qui veux la faire, et que tu sais pourquoi tu la fais, et tu connais sa grande rétribution, et tu connais son grand châtiment si on la délaisse, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va devenir de la douceur pour toi. Comme disait le prophète sallam, disait à Bilal, « Erihna biha ». On est fatigué, viens, on va prier pour que on se repose. On se repose dans la salat. On se repose dans la salat. Naam. Arihna biha. Maintenant, les gens disent arihna minha. Viens, on va prier pour que cette salat, pour qu'on la mette de côté. Non. Arihna biha. Naam. Donc, voilà. Allez-nous par la prière et non. À les genoux de la prière, comme disent certains juhal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Tfadlal.
Amin, cher. Donc, là, on m'envoie un whisper. Habib m'a envoyé un whisper. C'est arrêté. Je recommence ce que je veux faire. Donc là, Habib m'envoie un whisper par rapport à une sœur pareille qui arrête et recommence. Que doit-elle faire? C'est-à-dire que doit-elle faire lorsqu'elle reprend la prière, puisqu'elle arrête, elle reprend, elle arrête, elle reprend. Que doit-elle faire? Est-ce qu'elle doit refaire la shahada? Qu'est-ce qu'elle doit refaire exactement lorsqu'elle arrête de faire la salat et elle reprend? Après, j'ai pas compris la fin de la question. Comment se passent les ablutions? J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Sans de l'échir.
Vraiment, je n'ai pas beaucoup compris à ta question. Je n'ai pas beaucoup compris à ta question. Tfadlal.
En fait, apparemment, la sœur demande, elle dit qu'elle-même, elle arrête de faire la salat et elle reprend ensuite. Donc, je ne sais pas, un jour où elle doit rater certaines prières, un jour, deux jours ou trois jours, je ne sais pas. Et donc, après, elle reprend la salat et elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit refaire la shahada? Et après, est-ce qu'elle doit faire le rousle pour cela? Donc, en fait, comment elle doit faire les ablutions et comment elle doit faire son repentir, les étapes pour redevenir musulmane. Tfadlal, cher. J'espère que vous avez compris, mais c'est vrai que c'était un petit peu brouillon et j'en suis désolé. Tfadlal, cher.
Oui, maintenant j'ai compris. Avant cela, quelqu'un vient de me faire une remarque, comme quoi j'avais dit que l'huître, nous avons dit que l'huître fait partie des rawatib. Non, si j'ai dit comme ça, c'est que je me suis trompé et que je voulais pas dire ça. Non, car après cela, j'avais dit que l'huître faisait partie des sunan mu'akkada, des sunan qui sont recommandées et très recommandées, l'huître. Non, mais le fajr fait partie des rawatib. Donc c'est bien, si vous m'avez entendu dire que l'huître fait partie des rawatib, c'est bien de me reprendre, naam, wa barakallahu fikoum, pour ne pas yani tromper les autres, naam. Le chef, ça fait partie des rawatib, si c'est considéré comme deux après Aïcha, naam. Mais l'huître, non. El-Mouhim. Pour quelqu'un qui arrête la salat et qui la reprend, on va voir. Si maintenant, pendant la période où il a arrêté la salat, il est tombé en pollution nocturne, janaba, ou bien que Allah Ta'ala nous préserve, a fait le haram, ou là, celui-là, il est obligé de reprendre, yani pour reprendre, de faire la douche, et faire le grand rousl, ce qu'on appelle. Mais s'il a délaissé comme ça quelques salat, il n'a rien fait, ça n'a pas besoin de reprendre, de refaire le rousl, bi'idhnillahi ta'ala. Même si c'est mieux, yani, c'est mieux pour yani, d'un côté, donner une leçon à notre nefs, et de l'autre pour sortir des divergences. Pour sortir des divergences. Naam. Ensuite, dit comment faire sans repentir, et ça n'a pas besoin de faire le tashahhud, de dire les deux, comment ça s'appelle, les deux attestations. Ce n'est pas obligé de les faire. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de faire le repentir sincère et de demander à Allah Ta'ala pardon et de regretter ce qu'on a fait et de mettre dans l'intention de ne plus refaire cette chose. Car en fait, certains disent que salat, ça vient du mot sela. Certains ont dit, d'autres ont dit non. Mais certains ont dit salat vient du mot sela. Et sela, c'est en arabe relation. Et certains ont dit ça vient de soleil, c'est-à-dire un nerf qui traverse le corps. À chaque fois donc qu'on se prosterne ou qu'on s'incline, le nerf yani, s'incline avec nous, il se prosterne. El Mouhim. Ceux qui ont dit ça vient de relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que salat, ça veut dire que tu fais une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que par contre, en délaissant la salat, tu as coupé la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine. Tu as coupé la relation avec qui? Le Seigneur des mondes. Imagine. Il t'a délaissé et s'est retourné de toi et t'a laissé seul, abandonné à ce monde plein de prédateurs, de voyous, de drogués, de méchekils, de maladies, de, et tu n'as aucune aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine une grande tempête, et la mer houleuse, les vagues qui font 10 mètres de hauteur, et la nuit, au moins si c'était le jour, la nuit. Et toi, au milieu de l'océan, au milieu, naam, et peut-être tu ne sais même pas nager. Et même si tu savais nager, à quoi ça te sert, au milieu de l'océan? Tu ne sais même pas s'il faut aller à droite, à gauche, ou vers le devant, vers l'arrière. Tu ne sais pas quelle direction prendre. Naam. Dans l'obscurité totale, abandonné, tout seul. Allahu Akbar. Celui qui délaisse la salat, c'est quelqu'un qui n'a pas de raison. Au moment où il la délaisse, on peut dire de lui, il est devenu fou. On l'aide, naam, si on peut, on peut pas le prendre à l'hôpital psychiatrique, ils vont lui donner des cachets, on va lui faire des piqûres, donc ça sert à rien. Donc on va l'aider en lui faisant le rappel. Yafoulin, terillah. Yafoulin, tu es dans le grand péché. Yafoulin, tu as coupé la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Yafoulin, si tu meurs, dans cet état, c'est vraiment grave. Il faut l'intuer sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pour ça que Yom al-Qiyamah, la première chose dont on va être questionné, c'est quoi? C'est la salat. Ce n'est ni la zakat, ni le hajj, ni les aumônes que tu fais, ni l'alcool que tu as bu. Non, non, rien. La salat. Commençons par la salat. Imagine que tu meurs sans salat, ou tu meurs dans la période où il n'y avait pas de salat. Allahu Akbar. Très grave. Très grave. C'est pour ça que le hadith a dit, maintenant, s'il y a la salat, etc., on va passer à autre chose. On va passer à avoir d'autres adorations. Mais s'il n'y a pas la salat, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de parler. On n'a même pas le droit de parler. Il n'y a pas la salat. Ben, j'ai tout le temps donné un exemple juste pour rapprocher les choses de ce qu'on appelle quand on va à l'aéroport pour voyager. Ben, toi, par exemple, tu vas montrer je ne sais quoi. Un certificat comme quoi, voilà, si c'est une femme, par exemple, comme quoi la permission de mon mari. Hein, et qu'il m'a permis, par exemple, de voyager. Si ça se fait, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas important. Ou disons, c'est important si c'est une loi dans ce pays. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il faut? Donne-moi le passeport d'abord. Le passeport. S'il y a le passeport, je te demande deuxième papier. Donne-moi le visa. Et tu peux pas dire, voilà, je vous donne le visa, mais j'ai pas de passeport. Ou alors, voilà, j'ai la permission de prendre les enfants avec moi. Je vous montre la permission, mais j'ai pas de passeport. Le passeport, c'est lui. La pièce la plus essentielle dans l'aéroport et pour le voyage. Alors qu'en est-il pour le voyage vers l'au-delà? Si tu n'as pas la salat, si tu n'as pas la salat, qu'Allah Ta'ala raffermisse nos cœurs et qu'on ne meure qu'en priant. Et qu'on ne meure qu'en priant et qu'on ne meure qu'en priant. Tfadlal.
Jazakallahu khayran, cher. Donc, amin à toutes vos doigts. Donc, nous allons passer à la huitième question. Question d'une sœur qui demande « Ahsanallahu ilaykum ya cher. Il y a quelques jours, j'ai pu lire, donc elle met le paragraphe qu'elle a lu, « Entre chaque ciel, il y a 500 ans de marche. Et entre le premier ciel et la terre, il y a 500 ans de marche. Entre le septième ciel et le Kursi, il y a 500 ans de marche. Et entre le Kursi et l'eau, il y a 500 ans de marche. » Et le trône est sur l'eau, et Allah est sur le trône, et il, Allah Ta'ala, sait ce que vous faites. Je voulais savoir si cette parole est correctement traduite, et si le fait de dire qu'Allah Azzawajal est sur le trône est interdit, même si notre intention est le fait de dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez. Par rapport à cette
traduction, j'aurai deux petites remarques. La première, quand il dit entre chaque ciel et ciel, il y a 500 ans de marche. Ensuite, il a dit entre le premier ciel et la terre, il y a 500 ans de marche. Et comme ça, deux marches, ce n'est pas vrai à 100%. Pourquoi? Parce que le hadith, quand il a employé le mot en arabe, il n'a pas dit mashi. Quand tu dis marche, faut pas oublier que marche, ça veut dire marcher à pied. Marcher à pied. Alors, maintenant, si je vais aller à pied, pendant 500 ans, à pied, on va calculer la distance, on va trouver, c'est un exemple, on va trouver, par exemple, 1 milliard de kilomètres. Ça, si j'ai traversé 500 ans, il y en a à pied. Mais par contre, maintenant, si les 500 ans, que j'ai traversé, c'était pas à pied, c'était un vol d'oiseau. Maintenant, ça va plus donner yani 1 milliard. Non, ça va plus donner 1 milliard. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre aller à pied et aller yani un vol d'oiseau. Maintenant, qu'en est-il si c'est un vol de fusée? Qu'en est-il maintenant si c'est un vol de je ne sais quoi plus que la fusée, du sang et comme ça. Donc, il faudrait revenir yani, au hadith et yani, le traduire avec le mot qu'il a dit. Est-ce que vous avez le mot en arabe? Le mot qu'il a dit. Si j'ai une bonne mémoire, le hadith a dit yani, « Yassiru al-Rakib ». Peut-être c'est comme ça. Naam. Donc, il faut voir yani, comment traduire yani, de marche, car si vous dites marche, on va comprendre que c'est tapis. Un deuxième. Pour ne pas perdre de temps, attendez, je vais ouvrir ici le Maktab al-Shamila. Je vais voir une seconde comment qu'a dit le hadith en arabe, le mot exactement, une seconde. Je le cherche en arabe, une seconde. Une seconde. Tayeb, je vais lire, relire en français. C'était comment? C'était comment en français? Ce qu'il a dit. Il y a quelque chose entre chaque ciel. Il y a 500 ans de marche entre le premier ciel et la terre. Entre le septième ciel et le coursier, il y a 500 ans de marche. Entre le coursier et l'eau. Beina, le coursier. Non, mais j'ai pas pu trouver le hadith. Malish. Il dit à la fin, Allah sur le trône, et c'est ce que vous faites. Voyalem. Attends, je vais écrire Voyalem. Atfagoun. Si quelqu'un peut nous trouver le hadith en arabe, inshallah. Tasna'oun, je vais écrire. Tayyib. Je crois. بين السماء الدنيا والتالية 500 عام وبين كل سماء وبين كل سماء اعطوني جبيب هذا بين كل سماء وبين كل سماء خمس مئة عام. طيب بون لي دو غاردي لو صالون قال بين السماء الدنيا والتالي 500 عام كل سنه 500 عام بين السماء السابع وكل 500 عام طيب دونك سو حديث اون با فيريفي كي لي اوثنتيك استنى تشوف كوبي اون سكوندا معليش اون با بير اون با با بير دو طون. Je ne l'ai pas trouvé dans tous les livres de Cheikh Al-Albani, je ne l'ai pas trouvé. Hein? Je vais ajouter la dernière phrase, ou l'arche fourrelma. On va voir une seconde. Une seconde, c'est la dernière tentative, Inch'Allah. Sahahou ibn Qayyim, Fishtima'a Jouj Islamiya. Non. Moi, je veux voir ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, Rahimahullah. Je veux voir ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, sur le hadith. Vous devez sûrement savoir que le tasheh de Ibn al-Qayyim ne suffit pas, vous savez ça. Et bien, alors donnez-moi une seconde. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Hadith Ibn Saud qu'à l'arche fouq al-ma ou l'Allah fouq al-arche l'ayfa'ali min amalikum. قال إسناده صحيح ما إن باسيتي لو ديبو الألباني رحمه الله تعالى دي حديث ابن مسعود لوسكي لاسيتي الله فان العرش فوق الماء لو ترون سور لو والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من عملكم إلا دي إلي صحيح إلا دي إلي صحيح ما إن باسيتي تو لو ديبو ما إن شاء الله تعالى لو ديبو إي صحيح. المهم pour la deuxième remarque que je devais faire, Wallah fawq al-arsh. Wallah fawq al-arsh, la personne a dit, Allah est sur le trône. Et sur le trône, il dit, la personne dit, je voulais savoir si cette parole est correctement traduite. Et si le fait de dire qu'Allah est sur le trône est interdit, même si notre intention est le fait de dire qu'il est élevé au-dessus du trône. Naam, c'est interdit. Et qu'il faut dire, Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Même si tu dis pas élevé, mais tu dis au-dessus, au lieu de dire sur. La différence, c'est quand tu dis il est sur le trône, naam, certains peuvent penser que il y a ce qu'on appelle toucher. Qu'Allah Ta'ala touche donc le trône. Il est sur lui. Comme moi, je suis sur la chaise. Et je suis sur le lit. Si on enlève le lit, je tombe. Contact. Si on enlève le trône, Allah Ta'ala tombe. Et quand on dit il est au-dessus de lui, ça ne suppose pas obligatoirement absolument contact. Comme je dis, le plafond est au-dessus de moi, alors qu'il n'y a pas contact avec ma tête. Et je dis le ciel est au-dessus de moi. Il n'y a pas de contact avec ma tête. Mais quand je dis le ciel est sur moi, ou le plafond est sur moi, ça veut dire que yani, c'est moi qui le tiens avec ma tête. Naam. Donc, inshallah ta'ala, pour éviter tout, il faut dire que Allah Azza wa Jal yani, est au-dessus du trône, bi-idhnillahi ta'ala. Tfaddal.
Jazakallahu khayran ya shir. Donc, nous allons passer à la neuvième question. Neuvième question, question d'une sœur qui demande qu'Allah vous récompense pour le temps et la science que vous nous faites partager. Quel conseil nous donneriez-vous pour que nos do'as soient exaucés bi-idhnillah, notamment concernant le comportement adopté dans l'adoration, etc. Jazakallahu khayran ya shir. Donc la personne demande quel conseil vous nous donneriez pour que nos do'as soient exaucés bi-idhnillah. Barakallahu fik ya shir. Tafadda.
Naham. Avant cela, je dis barakallahu fikum, vous les admenez en particulier à Boutoura pour les hadiths qu'il ramène, etc. On aurait une petite demande, c'est de donner la dixième question à Boutoura pour qu'il la lise, inshallah ta'ala. Comme ça, on voudrait entendre sa voix, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naham. Donc, inshallah ta'ala, qu'il ne va pas nous refuser et ne va pas nous trouver des excuses. Hein. Donc, il dit, quel conseil nous donneriez-vous pour que nos doigts soient exaucés, bidnat ta'ala, notamment que c'est un comportement adopté, bien sûr, pour que, je dis de les raser. Au point, il dit que la femme n'a pas le droit de raser yani, ses jambes et qu'elle reste comme ça. Non. Alhamdoulilah qu'il y a divergence entre les savants. Non. Et que yani, pas quelque chose comme ça, 100% qui interdise yani, de couper afin de raser yani, les jambes ou les bras ou là par rapport à la femme. Non. Pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, par rapport à ce qui est interdit de raser, c'est par exemple la barbe, par exemple par rapport à l'homme, non, et les sourcils, par exemple par rapport à la femme, et aussi yani, le crâne. Non. Pendant que l'œil passe, là, j'entends un ancien dos de très longtemps. On me dit que pendant le cours, maintenant, quand on est en direct, Naam, il y a un ancien cours qui passe à la place du live. Hein? Ah, il y a Wesbekia Fouzi, il y a un ancien cours qui passe à la place du live. Au lieu qu'ils entendent ce que je suis en train de dire maintenant, ils entendent ce que j'ai dit au Koweït. Allah yadik. Naam. Tayyib. Auriez-vous une dernière question avec laquelle on termine, inshallah ta'ala, tfaddal?
Naam, cher, il y a une personne qui demande, donc c'est une personne, c'est une sœur convertie qui demande, alors je vais vous mettre la question, inshallah. Donc la sœur convertie demande si elle peut partir de chez ses parents car ils ne s'entendent plus et lui font comprendre de partir. Donc, la sœur demande, est-ce qu'elle peut partir de chez ses parents, car ils ne s'entendent plus et lui font comprendre de partir. Voilà.
Si elle sait qu'en restant avec eux, yani, ils sont un frein pour sa religion. On me dit, il n'y a plus de sens sur Paltolk. Là. Donc, il faut avoir... faut oser. Tu viens de faire autre chose. Ils n'ont plus le sang sur Paltok. Fawzi. C'est revenu. Fais des dégâts. Tu as raison, tu es loin. Fais ce que tu veux. Fais parce que tu es loin, Naam. Al-Mouim, je disais, si ses parents sont un frein pour elle, ils ne la laissent pas avancer dans le dîn ou lui font beaucoup de problèmes. Et de surcroît, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils lui font comprendre de partir. Et que, elle a où aller. Et que, en plus de cela, là où elle va, elle est en sûreté, elle est en sécurité. là où elle veut aller, elle sait que elle sera en sécurité bi-idhnillahi ta'ala. Pas de fitna, pas de... Non. Et d'un autre côté, elle sait que ça l'arrangera dans le din. Elle pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala plus librement, sans contrainte bi-idhnillahi ta'ala. Il n'y a aucun problème, inshallah ta'ala. Non. Mais le problème, c'est que quand ils ne veulent pas qu'elle parte. Non. Ou quand elle part et elle sait que yani, elle sera pas en sécurité et qu'elle peut tomber dans les fitnas et que ça peut se renverser contre elle. C'est dans ce cas que elle doit rester avec ses parents bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Il est 22h, il est 21h50. Il reste, on va ajouter encore 10 minutes, comme ça à 22h on arrête inshallah ta'ala. Tafadhal.
Chère question d'une sœur qui demande donc la sœur cherche à se marier. Elle fait qiyam al-lil, elle fait beaucoup de doha, et elle se demande qu'est-ce qui freine l'exaucement de ses doha. Qu'est-ce qui freine l'exaucement de ses doha, car elle n'arrive pas à se marier. Tafadhal cheikh, jazakallah khayran.
Ces jours-ci, je suis en train de penser à comment aider. Parce que beaucoup de frères, yani, me disent que ils n'arrivent pas à se marier, ils ne trouvent pas. Beaucoup de frères m'envoient, et beaucoup de frères viennent me voir aussi. Ils me disent, on ne trouve pas de salafiyettes avec qui se marier. Par contre, je reçois beaucoup de lettres, de sœurs, qui disent, on ne trouve pas d'hommes pour se marier. J'habite dans une ville où il n'y a pas de salafiyettes, donc j'ai pas comment yani, faire pour me marier. Donc c'est très yani, décevant, c'est très yani, ça fait mal que il y ait d'un côté des sœurs qui veulent se marier, de l'autre des frères qui cherchent donc à se marier, et il n'y a pas comment yani, les faire rencontrer yani, légalement, en faisant rencontrer yani, le prétendant avec le tuteur de la sœur. Non. Et ensuite, il y en a d'autres, yani, qui sont vraiment dans le moment du mariage. Et je parle de celles qui yani, dépassent 30 ans et qui ne sont pas encore mariées. Que si maintenant elles arrivent à 40 ans, vous savez que yani, ça devient un peu difficile, dans le sens où, après 40 ans, c'est un peu difficile pour la femme de donner des enfants. Et beaucoup veulent se marier à cause des enfants. C'est pour ça que
la personne devrait,
quand la personne a 30 ans et plus et que des gens se présentent, elle devrait y aller bien raisonner et se dire que je ne suis plus celle de 18 ans ou de 20 ans et que je dois faire y aller quelques, ce qu'on appelle concession. Non. Et que, bien sûr, si j'avais 20 ans, par exemple, je n'aurais pas accepté cette personne. Mais maintenant, vu que j'ai 30 ans et plus, je dois faire des concessions et l'accepter. Non. Bien sûr, je ne parle pas du din. Ça, c'est dans le cas où il est bien dans le din. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans le travail, ou dans le physique, ou dans l'appartement, dans je ne sais quoi. Mais, allez, je fais des concessions, car j'ai peur que ça devient difficile et que je me marie pas. C'est pour ça que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, et je vous l'ai dit plusieurs fois, il a dit que des fois, la femme se marie avec un fasiq, un pervers, et mieux qu'elle ne se marie pas. Comme ça il dit. Il dit, fasiq, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un fornicateur ou là. Par exemple, c'est quelqu'un qui, par exemple, fait des péchés comme ça. Fume la cigarette, peut-être que il a une bague en or dans sa main. Non. Mais c'est mieux que de ne pas être marié. Car la bague dans sa main, je lui fais des rappels. Parce qu'il va l'enlever. Et ensuite, supposons qu'il l'enlève pas, supposons. C'est qui va payer? C'est moi ou c'est lui? C'est lui. C'est lui qui va, Yom al-Qiyamah, payer. Il sait que ça se fait pas, il fait. Mais au moins, je suis marié, j'ai une famille, j'ai des enfants, et comme ça. Il y a certaines sœurs qui ne voient pas ça. Elle te dit, moi je préfère rester célibataire toute ma vie plutôt que de me marier avec quelqu'un, par exemple, qui a des défauts comme ça. Non. C'est-à-dire elle voit pas loin et elle n'a pas la balance entre yani, pousser le plus grand mal en faisant le petit et s'en tirer le plus grand bien en repoussant le petit aussi. Elles n'ont pas ça dans la tête. Non. C'est-à-dire elle voit pas plus loin que le bout de son nez. Il faut qu'il soit salafi parfait. S'il n'est pas salafi parfait, non, physiquement, non, je l'ai dans un livre. Je l'ai dans un livre. Si vous voulez, je vous la prépare pour le prochain cours. Si vous voulez, je vous la prépare pour le prochain cours. C'est-à-dire je l'ai dans mes notes. Dans mes notes. Non. Je disais, certains veulent que yani, que le conjoint soit le plus parfait du monde, ou alors on se marie pas. C'est pour ça que dans le madhhab de Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il disait que quand quelqu'un, par exemple, veut voir une personne pour le mariage, hein, il a dit qu'il commence d'abord, yani, par voir le physique. Il commence pas par le din. Alors que le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, idfir bidat ad-din, prend celle et celui du din. Par rapport à la femme, elle prend celui du din et lui, il prend celle du din. Il a dit, taribat yadak. Il a dit, donc il faut viser le din. Mais Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je commence par le physique. Pourquoi? Parce que si je vois, naam, je commence par le din, je trouve une personne, elle est mashallah dans le din. Ensuite, quand je vois son physique, la personne ne me plaît pas. Et je la délaisse, je ne me marie pas avec elle. Ça veut dire, j'ai fait quoi? J'ai contrarié le hadith. Le hadith a dit, si tu trouves celui du din, prends-le. Celle du din, prends-la. Et toi, tu l'as délaissé à cause de son physique. Mais si par contre, tu avais commencé par le physique, commence par le physique, et ça t'a pas plu le physique, donc j'ai pas pris. Si la personne que j'ai pas prise à cause du physique était, mashallah, de din, c'est pas important, parce que moi, j'ai pas vu le din, j'ai commencé par le physique. C'est le physique qui m'a pas plu. Elles sont des films, les frères aussi, à vouloir des top modèles, et c'est pour ça qu'ils ont du mal à se marier. Non. Non. Donc certains veulent la perfection ou je ne me marie pas. Non. Et ils peuvent rester comme ça, célibataires toute leur vie, alors que s'ils s'étaient mariés, Allah Ta'ala aurait fait changer les choses. Ensuite, on s'habitue l'un à l'autre. Et ensuite, la personne ne peut plus se passer de son conjoint. Non, avec l'habitude, les enfants qu'ils ont, et les voyages qu'ils ont voyagés, et les heures qu'ils ont vécues ensemble, et les années. Non, maintenant, ça n'a plus d'importance. Yani, ces choses-là. Al-Muhim, Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala fasse une solution. Tfadlal.
Amin. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc, nous allons passer à une question que Fawzi m'a envoyée en PV d'un frère qui demande Assalamu alaikum, ya Cheikh. Qu'Allah vous préserve. J'ai des wassawas, concernant les grands savants Ibn Uthaymin, Salih al-Sheikh, Hafidhahumullah. Car ils ont des fatwas autorisant de faire un jour pour Cheikh Abdul Wahhab, rahimahullah, et une fatwa du Mufti permettant de faire la fête nationale saoudienne. Qu'avez-vous à dire sur cela, Yachir? Veuillez m'expliquer. Barakallahu fikoum. Tfadal Yachir. Pour ma part, je n'ai jamais vu ces fatwas. Tfadal Yachir. Wa jazakallahu khayran.
Mahmoud, est-ce que c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de relire la question? Car j'étais en train de lire quelque chose. Est-ce que c'est possible? Tfadal.
Naam, Yachir. Donc, je vais vous relire la question. Alors, subhanallah adim. Fawzi, est-ce que tu peux me la renvoyer? Parce que sans faire exprès, j'ai fermé ton PV. Afwan, j'ai fermé le PV à Fawzi. Donc si Fawzi, tu peux me la renvoyer. Barakallahu fik. Donc c'est bon, il me l'a renvoyé. C'est pas incroyable ce que j'ai fait. Donc le frère dit, Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous préserve, j'ai des wasawis concernant les grands savants Ibn Uthaymin, Salih al-Sheikh, Hafidhahumullah, Rahimahullah, Cheikh Uthaymin, car ils ont des fatwas autorisant de faire un jour, je pense, un jour de, je vois pas, un jour de, pour Cheikh Abdul Wahhab. Donc je pense que ça doit être un jour férié ou Allah Alam, je ne sais pas. Mouhim, il dit, car ils ont des fatwas autorisant de faire un jour pour Cheikh Abdul Wahhab rahimahullah, et une fatwa du Mufti hafizahullah permettant de faire la fête nationale saoudienne. Donc Cheikh, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Veuillez m'expliquer, barakallahu fikoum. Fadal Cheikh, wa jazakallahu khayran. Ah, fête, d'accord. Nous avons de faire un jour de fête, d'accord. Barakallahu fikoum. Fadal Cheikh.
Nab, je n'ai pas connaissance de ces choses-là. J'ai pas vu ces fatwas, je l'ai jamais lu. Et je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dit. Et exactement c'est quoi leur délire. Je ne connais pas leur délire. Peut-être que si je lis la fatwa et je lis leur délire, peut-être que je serai convaincu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont ramener comme fatwa. Non. Ce sont des grands savants, ils vont pas dire comme ça des choses de leur tête. Et il y a aussi autre chose, il y a aussi que chaque personne en prend d'elle et on délaisse, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tfadl.
Naam, mes chers. Donc il serait bien que le frère nous envoie le lien où il a eu connaissance de ses fatwas, parce que pour ma part, moi non plus, je n'ai jamais eu écho de cela. Donc, cher, moi je n'ai pas d'autres questions. Nous n'avons plus de questions, sauf une personne qui demande serait-il possible de demander au cher les références du ou des prochains livres que l'on va étudier afin de les acheter, Inch'Allah. Donc la personne demande quelles sont les références des prochains livres, Yachir. Jazakallah khayran, tfadl Yachir. Et il est 22h02, Naam. Donc nous finissons par cela, tfadl Yachir, Jazakallah khayran.
Naam, par rapport au prochain livre, parce qu'il faut savoir que maintenant on fait 3 cours par semaine, le prochain, on doit terminer, yani on doit faire 2 cours, afin 2 livres, après avoir terminé le mal et le remède, on va faire 2 livres à la fois. Le premier, 2 fois par semaine, c'est bon jusqu'à le terminer, car on l'a commencé et on s'est arrêté, vous savez, à cause de la fitna. Donc on va le reprendre. Il sera, Inch'Allah Ta'ala, samedi et mercredi. Mais lundi, au milieu du lundi, c'est-à-dire le lundi, c'est un autre livre. Un autre livre qu'on va lire comme ça, Naam, pour se raffermir, etc. Je vous ai dit, la fois passée, ou bien ça fait 15 jours, je vous ai dit, j'avais un livre dans la tête. Mais maintenant, je l'ai oublié. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Je vous ai dit, peut-être qu'on va commencer tel livre. Est-ce que quelqu'un peut voir? Sur le paradis, ça, c'est vrai. Sur le paradis. Naam. Tayyib. Donc, lundi, afwan, samedi et mercredi, les 3 fondements, et lundi, ou bien le livre sur le paradis, ou bien le livre, par exemple, sur les invocations dont je viens de vous parler. On va voir, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Ça, le paradis. Si vous voulez que ça soit pas sur le paradis et que par contre ça soit sur l'enfer, je suis prêt aussi. Ah, car il y a 2 jours, j'étais comme ça avec la famille et on a invité. On a dit, viens, on fait un petit rappel. Et ils se sont divisés. Certains ont dit, on part sur le paradis. Une personne a dit, non, sur l'enfer. J'ai dit pourquoi? Ensuite c'était vrai. La personne a dit sur le paradis c'est facile. Paradis, tout le monde aime le paradis, toi. Mais l'enfer, il faut d'abord se sauver de l'enfer. La personne a dit il faut d'abord se sauver de l'enfer pour entrer au paradis. Viens, on va parler de l'enfer. Mais moi je vous donne libre cours, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla le micro, tfadla.
Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. En fait, cher, c'était pour rappeler aux frères et sœurs, les personnes qui n'ont pas écouté leurs questions, là où il y a eu une déconnexion par rapport à Paltak et sur la radio, vous pouvez retrouver, Inch'Allah, les questions sur le lien QRT Tchalabi com, je crois, je me souviens plus. Habib, si tu peux afficher le lien. Barakallahu fik. Je sais pas si Habib. Ah non, c'est bien ça. www.qr-6chalabi.com. Naam, vous allez sur ce lien, inshallah, d'ici quelques jours, les réponses, les questions-réponses de ce soir seront mises en ligne. Barakallahu fikum. Et Chir, je vous rappelle par rapport au livre, qu'une fois vous avez suggéré, plutôt une personne vous avait suggéré par email, de faire un livre et ensuite le terminer et passer à un autre livre, qui était, c'était mieux pour nous. Allahu a'lam. Barakallahu fikum, Chir.
Non, justement, c'est ce que je vais faire. Le livre sera Osmo, les trois fondements. J'ai dit jusqu'à le terminer. Mais, normalement, je le fais seulement deux fois par semaine. Mais moi, j'ajoute, yani, le lundi, pour, yani, détendre un peu l'atmosphère. Femme, si c'est seulement trois fondements, hein, mais au milieu, comme ça, quelque chose du paradis, de l'enfer, des invocations. Quelque chose en plus. Sinon, le livre, c'est les trois fondements jusqu'à le terminer. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose que j'ai pas comprise, mais je vais vous la dire. Peut-être les personnes dont cette personne parle, peut-être vont se reconnaître et ou la comprendre. Il dit, il parle en arabe, je traduis directement en français. Il dit, salam alaikum, on veut une nasiha par rapport à ceux qui assistent au Pal Talk. Par rapport à ceux qui assistent à vos cours au Pal Talk et se mélange en même temps avec d'autres salons et yani yunkir ala man ankara alayhim. Ça, j'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on lui dit pourquoi vous faites ça, il dit c'est-à-dire que c'est vous qui êtes dans la faute. C'est-à-dire j'ai le droit de faire ça. C'est-à-dire d'écouter ici les cours et d'aller me mélanger dans d'autres salons avec d'autres personnes. Il a dit, voilà, il a dit, sachant que, écoutez bien ce qu'il dit, sachant que ikhwa, des frères, ou akhawat et des sœurs, sont tombés dans la fahisha, sont tombés dans les grands péchés, sont tombés dans le grand haram, des frères et des sœurs, comme ça il dit. Moi j'ai entendu des centaines de témoignages. Non. Que des frères avec la barbe qui peut arriver au nombril. Et des sœurs avec le sitar et les gants. Qui ont m'a témoigné qu'ils ont fait vraiment des choses graves. Vraiment des choses graves, graves et graves. Non. Il dit ici, « Wa minhum » et certains d'eux, « Menzara » qui a délaissé carrément la droiture que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Toute personne qui lui est arrivée, ce qu'on vient de citer maintenant,
n'a personne à blâmer
que elle-même. Si elle doit blâmer quelqu'un, elle doit se blâmer elle-même. Naam. Et dire c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas voulu prendre des conseils. C'est moi qui ai voulu aller chercher la petite bête dans les autres salons et rire avec les gens et parler avec les hommes et écrire MDR et Tap 5 et je ne sais quoi. Et voilà où je suis tombé. C'est de ma faute et toute personne qui fait ça le mérite. Parce que si elle avait pris avec les conseils du din, les conseils du prophète alayhi sallam, les conseils des savants, Naam, et avait craint Allah subhanahu wa ta'ala, la personne ne serait pas tombée dans ces choses. Et Allah ta'ala l'aurait quoi? Aurait refoulé d'elle et éloigné d'elle les fitnas. Comme il a éloigné les fitnas de Yusuf alayhi salam, qui, la femme rentre chez lui, ferme les portes, rentre avec des habits vraiment, vraiment fitnas. Des habits vraiment fitna, et c'est elle qui propose, et c'est elle qui le force, et lui dit, sinon tu vas en prison, et elle est très belle, et il n'accepte pas. Et Allah Ta'ala, il est loin de lui. Imaginez tout ça, et Subhanallah ta'ala, Allah ta'ala est loin de lui. Non, il rentre dans un salon. Juste un petit PV. Juste un petit PV. Tu es beau, tu es ceci. Khlas, ils tombent dans la fitna, ils se donnent rendez-vous, ils font le haram. Que Allah ta'ala nous préserve. Vraiment, celui qui fait ça, vraiment sa foi est faible, 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 faible. Vraiment, c'est juste un décor. Dans ce cas, la barbe et le kamis, c'est juste un décor. Et le niqab et je ne sais quoi, c'est juste un décor. C'est juste une mode. Le cœur est vide, 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 vide. Vide de la crainte d'Allah, vide de l'amour d'Allah, vide de sincérité, vide de la peur de l'enfer, vide de la convoitise du paradis. Rien, rien. Rien. Que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, raffermisse nos cœurs. Non, toute personne qui tombe dans la fitna, qu'elle se blâme elle-même, qu'elle se dit c'est de ma faute, c'est moi qui ai voulu, au moins comme ça peut-être Allah Ta'ala va lui pardonner. Qu'elle reconnaisse que voilà, c'est elle qui est tombée, c'est elle qui n'a pas suivi le chemin droit, c'est elle qui a dévié, donc elle mérite plus que ça, elle mérite plus que ça. Et maintenant, certains et certaines, on met leurs photos et leurs vidéos sur Internet, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Sur Internet. Non, mais on envoie à tout le monde et on dit, regarde ce qu'a fait X et Y. Regardez ce qu'ils ont fait. Et tu rentres vidéo et tu vois ce qu'ils ont fait. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Non. Surtout, quand quelqu'un joue avec le din. Quand quelqu'un n'est pas dans le din, il peut faire ce qu'il veut. Non. Allah Ta'ala le laisse dans son aveuglement jusqu'à ce qu'il le saisisse une fois pour toutes. Mais pourquoi c'est un pervers ou là c'est un kafir ou là, il vit pour cela. Mais quand quelqu'un yani, montre aux gens qu'il est dans le din, avec son comportement, avec ses habits, avec ça, ensuite il va faire des choses pareilles, vous savez qu'Allah Ta'ala est jaloux et que donc cette personne est en train de quoi? Est en train de donner un mauvais aperçu aux gens par rapport à l'islam. Les gens ne vont pas dire, par exemple, je donne un exemple, c'est tout, ne vont pas dire Karim a fait la zina. Mais ils vont dire le barbu. Ah, tu connais le barbu, hein? Il passe chaque matin là, Zama, salam alaikum, venez prier, pourquoi vous priez pas, hein? Celui-là, hein, le barbu avec le khamis. Hein, voilà, va voir la vidéo. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait, tout le monde est au courant, ici dans le quartier. Non. Et si c'est une fille, ils vont pas dire Karima. Tu sais Karima ce qu'elle a fait? Non. La djilbabiste, Mutaaseba. Non, avec celle qui montre rien de son visage, et les gants, etc. Non, va voir ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, va écouter l'audio et va voir la vidéo. A'udhu billah. Ça veut dire, elle est en train quoi? L'islam. Regardez l'islam, regardez Sadafiya, Jilbab, Islam, Zama, La ilaha illallah, regardez ce qu'ils font. C'est vraiment grave devant Allah Ta'ala. C'est vraiment grave devant Allah Ta'ala. Contrairement aux pervers et aux kafirs. Si un pervers, on me dit, il a fait la zina. Pervers, pourquoi il fait pas? Ça m'étonne, si tu me dis, il n'a pas fait, je vais m'étonner. Mais celui-là, non. Un frère, masha'Allah, avec siwak dans la main, et djilbab, ah non. Aïe, 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 Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, ça fait mal d'entendre des choses pareilles. Ça fait vraiment mal d'entendre des choses pareilles. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Aujourd'hui c'est mercredi, on va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, d'éloigner de nous les fitnas, d'éloigner de nous les fitnas. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته